Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Et un crime survient devant vos yeux. Impossible de ne pas regarder. La chaîne télé, Témoin, pour voir la vérité en pleine face. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Antoine Joubert, Germain Goyer. Des vrais gars de char. Le guide de l'auto.
Écoute, première nouvelle, c'est la Civic, hein, 2022. Oui. Enfin, on a les détails.
On l'attendait teasé depuis longtemps. On nous avait montré un prototype, puis enfin une première image. Mais bon, c'est cette semaine que ça s'est passé.
Ouais.
Pour la Civic Berlin, donc le modèle de grand volume. Peut-être une légère déception sur le plan mécanique parce que ben il n'y a pas d'évolution. Finalement, on conserve les deux mécaniques de la 10e génération pour la 11e génération. Donc, pour les versions LX, EX et Sport, on va avoir le 4 cylindres de 2 litres. Puis pour une version Touring qui va se placer au sommet de la gamme, ben on va avoir le 4 cylindres turbo-compressé, cette fois-là, de 1,5 litres.
C'est ça. Et tu vois, ces mécaniques-là, bon, respectivement, vont gagner, on parle d'une économie de carburant par rapport à l'ancienne génération d'à peu près 3 %.
Oui.
Donc, c'est vraiment grand-chose.
Non, mais c'était déjà des mécaniques qui étaient frugales. Assez frugales. Là. Donc, à un moment donné, oui, on peut aller chercher des dixièmes ici et là, mais je pense
c'est
que c'est, chez Honda, on est des motoristes. On a vu qu'on a eu... C'est pas sans faille, mais on est habitué de développer des mécaniques qui sont optimisées. Puis, je pense que ces deux-là, ben, c'est un bel exemple. Là.
Bon, évidemment, de ça, on retient qu'il n'y a plus de version d'entrée de gamme, pas de version DX, pas de boîte manuelle non plus de disponible pour la berline Civic.
Ça, c'est une grande nouvelle parce que ben, on sait que c'est une voiture qui était relativement populaire avec la boîte manuelle, mais là, on l'élimine.
Donc, on parlait en 2020 de 16 % des berlines Civic qui ont été vendues en boîte manuelle, excluant la version SI des Civic régulières. Au Canada, c'était 6 % et moins de 5 % sur le marché américain, ce qui explique la décision du constructeur à ce niveau-là. Par contre, en entrevue un peu plus tôt cette semaine, j'ai pu parler avec le chef de la planification de produits chez Honda qui, lui, me disait que les boîtes manuelles demeureraient pour la berline Civic SI qui, elle, va arriver un peu plus tard et ça sera la seule transmission disponible. Alors ça a été surprenant pour moi. Moi, j'étais persuadé qu'on arriverait avec une transmission double embrayage ou même une CVT pour la Civic SI, considérant que la GTI se vend à 60 % avec des boîtes automatiques.
Même si les voitures sportives sont populaires avec une boîte manuelle, forcément, rendu en 2022, c'est pas tout le monde qui veut embrayer soi-même. Donc, c'est très étonnant de voir cette décision-là prise par Honda.
On nous dit, par contre, que pour la version hatchback, qui, elle aussi, va arriver un peu plus tard et qui sera désormais fabriquée aux États-Unis, non plus en Angleterre, là, on va offrir un choix de boîte manuelle ou CVT. Il n'y aura pas de version SI hatchback. Ça, pour moi, c'est une surprise aussi. Je m'attendais à voir débarquer une version SI de la hatchback, surtout considérant le fait qu'on veut placer la Civic hatchback de façon premium ou plus élevée hiérarchiquement dans la gamme Honda, un peu comme on a fait avec la Golf versus la Jetta. Donc,
et par le passé, le fait qu'elle soit assemblée en Angleterre forçait Honda à la placer un peu plus haut de gamme parce qu'elle coûtait plus cher à assembler, tout simplement.
Mais elle sera vendue plus cher aussi, la Civic Hatchback. L'attendez-vous pas à une Civic Hatchback en bas de 25 000. Ça n'existera probablement pas. On aura, bon, évidemment, un moteur 1.5 turbo. Il y aura aussi une version de CPR qui va arriver plus tard. Donc ça va arriver. Il n'y a plus de coupé. Ça, c'est terminé.
Non.
On le savait déjà, de toute façon.
Ça s'est officialisé, matérialisé, mais malheureusement.
Mais pour celui qui voudra une Civic à boîte manuelle, ça sera soit l'hatchback ou la berline SI, ou encore, évidemment, l'hatchback de ses pairs.
Mais là, on est ailleurs complètement.
Exactement.
Assemblage de la berline, ça demeure au Canada.
Bien sûr.
On ne s'étonne pas de ça.
Usine à laquelle j'ai déjà travaillé, d'ailleurs, en 1997, où on fabriquait des Civic, des spéciales éditions vert forêt et argent.
C'était une autre époque.
Puis des Acura 1.6 EL aussi.
Oui.
Oui, monsieur.
Une autre époque, effectivement.
Bon, j'ai voulu aussi, quand j'ai parlé avec les gens d'Honda, j'ai abordé le sujet de l'électrification, bien sûr, parce qu'Honda, on le sait, là, on émet des communiqués. On a même émis un communiqué il y a quelques jours à peine mentionnant que Honda vise que des véhicules 100% électriques pour 2040.
Oui.
C'est loin, là.
C'est très loin.
C'est ça.
Mais si on veut y arriver, il va falloir qu'on s'y mette un jour, là.
C'est ça. Puis Honda et l'hybridation, ça n'a jamais fait bon ménage. On dirait qu'on n'a jamais voulu réellement en vendre ou mettre les efforts nécessaires pour percer le marché. Actuellement, on a une Insight qui est une Civic hybride, on peut appeler ça comme ça, mais qu'on ne vend qu'au compte-gouttes parce qu'Honda ne veut pas la promouvoir. Et j'ai posé la question, faut-il s'attendre à une Civic électrifiée pour cette génération-là?
Et c'est quoi la réponse?
Et on a été honnête chez Honda parce que d'habitude, on répond toujours la même chose. On ne parle pas des futurs produits. Mais là, on m'a dit, pour 2022... Pas de version électrifiée. Attendez-vous toutefois à voir une version électrifiée débarquer dans les prochaines années. Et ça pourrait autant être une version hybride régulière qu'une hybride rechargeable.
OK.
Alors, il y a des plans pour une Civic électrifiée très prochainement. On est conscient que du côté de Hyundai et de Toyota, on offre des Elantra et des Corolla des hybrides. Alors ça...
L'offre est présente.
Puis Honda n'a pas le choix de demeurer leader. Là. On ne peut pas se permettre de tomber deuxième avec la Civic. C'est impossible.
Et malheureusement, Corolla... c'est ce qui s'est passé avec le CR-V, le RAV4. Là. On a laissé le RAV4 passer loin devant.
Oui, mais
là.
Ça, c'est une loi de marché. C'est-à-dire que on ne peut pas se retrouver derrière la Corolla, par exemple, sur le marché canadien. Puis il faut pas oublier...
Ça ne sera pas pardonnable.
Ben oui, il ne faut pas oublier que la Corolla, c'est aussi une voiture très, très, très populaire chez nous qui gagne des parts de marché parce qu'il y a plein d'autres constructeurs qui l'ont délaissé, ce marché-là. Alors, tu as Nissan qui traîne la patte, mais qui commence à aller chercher quelques pourcents au niveau des parts de marché avec la nouvelle Sentra.
Avec un produit qui est franchement convaincant, enfin.
Oui, c'est ça. Puis pendant que Nissan gagne des parts de marché, Mazda en perd avec la Mazda 3, qui est une voiture franchement impressionnante, mais qui ne réussit pas à séduire la clientèle comme elle le faisait dans le passé. Bon, la Golf s'en va, ça règle un problème. Je parlais avec les gens d'Honda à la blague de la Golf qui disparaît, puis je leur ai posé la question.
Est-ce que ça a
jamais,
changé leur
jamais on aurait pu croire que la Golf disparaîtrait de la gamme Volkswagen parce que c'était le cœur, le pouls de cette marque-là. C'est la même chose pour la Civic.
Ouais.
Évidemment, on ne dira pas qu'un jour la Civic pourrait disparaître, mais c'est clairement pas dans les plans d'Honda. La Civic, ça fait partie
Et contrairement à la Golf, la Civic est forte ailleurs au pays, ailleurs aux États-Unis.
Ben
contrairement
oui,
à la Golf, qui, elle, était populaire qu'ici, finalement. Là.
Ben oui, mais il faut comprendre une chose, c'est que la Golf est populaire partout dans le monde.
Oui.
Puis la Civic, c'est une voiture qui se vend bien chez nous en Amérique du Nord, peut-être un peu moins bien sur d'autres marchés.
Et son avantage, c'est d'être assemblé ici.
Ah ben non, c'est clair.
Ça, c'est évident. Sur le plan de la rentabilité du produit, c'est une grande qualité pour elle. Là.
Donc, la nouvelle Civic, même motorisation, on le sait, ligne très évolutive, ça fait un peu Honda Accord. Il faut aimer la partie avant. Écoute, je vais être honnête, je ne suis pas fan du design, pas plus que de l'ancien. Faudra que je la voie physiquement pour m'y habituer.
Tu me disais qu'on avait apporté des changements importants à l'intérieur.
Ben c'est ça. Alors, l'habitacle est beaucoup plus épuré. En termes de design, moi, je trouve ça très intéressant. Et les plus grosses plaintes ou les plus gros commentaires, les commentaires les plus nombreux qu'Honda a reçus pour l'évolution de cet habitacle-là, la clientèle demandait une meilleure position de conduite.
Ouais.
Donc, autrement dit, être positionné un peu plus haut avec une meilleure visibilité, avec un sentiment d'espace supérieure. Alors, on a travaillé énormément là-dessus. Ce pourquoi on a devancé les piliers A, on a une plus grande surface vitrée et une assise qui est plus confortable et positionnée différemment aussi.
Parce que dans la 10e génération, on avait carrément l'impression d'être assis sur le plancher.
Oui, puis ça a toujours été pour la Civic. Il ne faut pas oublier.
Mais le marché a pris une autre tangente au fil du temps.
Exactement. Puis, il y a bien des gens qui délaissent la Civic pour aller dans un HR-V parce que c'est juste plus facile de s'y glisser. Alors ça, on a voulu corriger ce problème-là. Bon, évidemment, évidemment, plus de sécurité, meilleur système audio. Finalement, on a droit à un volant chauffant, ce qu'on n'avait pas dans la Civic. Puis ça commençait à... les gens commençaient à se plaindre de ça. Donc, on a mis à jour, évidemment, tout ce qui s'appelle l'équipement technologie, l'écran central qui est beaucoup plus moderne, une chance. Donc, tu sais, on a travaillé à ce niveau-là. L'espace au niveau de l'ouverture du coffre, ça a été amélioré. Donc, c'est une voiture qui sera plus homogène, plus confortable et plus silencieuse aussi. On ne pouvait pas s'attendre à moins, Marc-Bain, là. Mais bref, on a travaillé à ce niveau-là. Alors, je pense que... Puis on a retravaillé le châssis aussi pour une meilleure rigidité. Donc, je pense qu'il faut surtout s'attendre à une voiture beaucoup plus raffinée sur le plan technique qu'impressionnante au niveau de son apparence. Puis moi, j'ai bien hâte de prendre le volant de cette voiture-là.
Absolument, absolument. Bon. Très, très hâte, moi aussi.
On a dévoilé aussi chez Hyundai le Conan.
Oui, le Kona N, donc la version de performance du Kona. C'est assez spectaculaire. Bon, on l'a vu en photo. On a vu les données techniques. On ne l'a pas vu en vrai. On ne l'a pas conduit. Mais tout ce qu'on a appris place la barre très, très haute, disons ça comme ça. Donc, on retrouve un moteur 4 cylindres, 2 litres, turbo-compressé. Et on est, écoute bien Antoine, à 276 chevaux dans un véhicule du format d'un Kona.
C'est la mécanique d'une Veloster N.
Oui, mais dans un véhicule utilitaire sport sous-compact. Le Kona, dans sa version avec le moteur 1.6 turbo, c'était déjà un véhicule relativement dynamique, assez pépé, qui se déplaçait bien. Là, on arrive complètement ailleurs et on lui a conféré, si tu permets l'expression, une méchante gueule. Là. Donc, on l'a rempli d'éléments aérodynamiques. On en a presque fait une Civic type R là, à partir d'un Kona. C'est violent sur le plan esthétique. J'ai très hâte de voir ça débarquer. Et ça m'a fait réaliser une chose, c'est que, chez Mazda, on a le CX-30 à moteur turbo, mais là, on est vraiment ailleurs. On arrive avec un premier véhicule utilitaire sport sous-compact de, entre guillemets, haute performance. Là.
Je ne sais pas si Jeep va lancer un Renegade SRT.
ça serait un concurrent, parce que finalement, c'est un produit très, très radical dans son approche. Et,
mais est-ce qu'on est rendu là à faire des VUS sous-compact hyper sportif alors que les voitures disparaissent?
Oui. Mais c'est pas étonnant parce
que... J'ai presque envie de te dire que je trouve ça triste.
Ben, c'est dommage parce que toi et moi, on aime beaucoup les voitures à vocation sportive.
Le Kona, on va s'entendre, c'est une voiture. Là, mais
c'est une voiture, mais avec un enrobage et un habillage qui, lui, est celui d'un VUS.
Faut quand même se battre avec les lois de la gravité si on est sur un circuit ou si on pousse la machine à son extrême. Puis là, on parle d'une machine de performance assez sérieuse. Un Kona N, ça va être ça. Sauf que c'est un véhicule plus haut qui va avoir une moins bonne tenue de route, qui va être juste un peu plus lourd qu'une voiture. Puis ça, c'est 4 roues motrices.
Ben, on n'a pas eu nécessairement tous les détails techniques, mais je présume que oui. Parce que si c'était roue motrice avant seulement, ce serait un peu violent.
Remarque bien que c'est le cas pour la Veloster.
Oui, donc, effectivement, mais on est dans une autre dynamique. Ouais. Mais bref, avec le Kona, c'est un véhicule qui est très populaire et on l'a décliné dans une multitude de versions. Ouais. Et il manquait finalement qu'une version sportive et elle va arriver. Donc c'est assez spécial avant et on pourra suivre ça, mais est-ce que d'autres manufacturiers vont emboîter le pas dans cette direction-là? Je vais suivre ça de près.
Un EcoSport ST.
Ah non, mais chez Ford, on l'a échappé depuis très longtemps avec l'EcoSport.
Ouais.
Et c'est un revers qu'on essuie chaque année parce qu'on renouvelle le modèle. Et malheureusement, on n'est pas du tout...
On n'est pas là.
On n'est pas là un seul instant. Un petit mot, Antoine, quand même, pour mentionner que le Grand Prix du Canada 2021 est annulé. Une deuxième année consécutive où l'événement est annulé. Il y avait eu... des pourparlers qui mentionnaient que l'événement pourrait être tenu à huis clos, mais bon, à quoi bon, hein, finalement.
C'est ça.
Ça perd tout son intérêt, parce que bon, on sait que oui, c'est intéressant pour la course, mais c'est tout ce qui vient en périphérie et qui fait rayonner la ville de Montréal. Quoi qu'on aurait peut-être effectivement besoin d'un peu de rayonnement à Montréal, mais ça, c'est une note un peu plus éditoriale.
Peut-être que Denis Coderre s'en chargera dans quelques mois, parce que là, on commence à le voir un peu partout.
Ouais, sa présence médiatique grandit chaque jour, donc peut-être que ce sera lui, le maire de Montréal, à l'occasion du Grand Prix de Formule 1 2022.